Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Touraine.
Et il est l'heure de bien vivre avec Isabelle Dorceau. Bonjour Isabelle.
Bonjour Christelle.
Alors avec vous, le jeudi, eh bien, on s'occupe de notre bien-être, de notre santé.
Exactement.
Il y a un volet de la santé qui ne compte pas pour rien, c'est la santé au travail. On entend de plus en plus parler de cette question.
C'est une vraie préoccupation, oui, c'est vrai. Et il y a eu une enquête qui a été réalisée dernièrement là, par l'organisme de formation professionnelle SEGO, c'était fin 2017, qui donne des chiffres assez impressionnants quand même. Bon, ce ne sont pas les seuls, hein, c'est ce qu'on a checké tout de suite avec notre invité que je vais vous présenter dans un instant. 52% des salariés présentent un niveau élevé d'anxiété, 52%. 24% d'entre eux sont dans un état d'hyperstress et 29% souffrent de dépression. Alors si le stress n'est pas une maladie, il peut en provoquer, hein, et notamment les maladies cardiovasculaires. Alors comment faire pour créer du bien-être au travail? Quelles sont les clés aujourd'hui pour être un bon manager et un bon manager? Monique Pierson, spécialiste du management installée à Tours et auteure de « Manager, faites de votre équipe une dream team », un livre sorti tout récemment aux éditions AFNOR, va nous éclairer sur tout ça. Bonjour Monique.
Bonjour.
Bonjour.
Alors des clés pour diriger une équipe, des clés pour être un manager bienveillant et aussi un manager donc apprécié de ses équipes et efficace. Il y a des choses à connaître quand même pour ça, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de se situer finalement.
Alors il y a une première chose à connaître, c'est quel est le rôle du manager.
Eh oui.
Beaucoup de gens sont promus managers parce qu'ils sont d'excellents experts techniques. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Et au contraire, quand on devient manager, il faut oublier son expertise technique pour ne pas gêner ses collaborateurs qui, eux, sont des experts et qui n'ont pas besoin qu'on leur dise comment faire et ce qu'il faut faire.
Il faut apprendre à laisser faire, en fait.
Il faut faire faire.
D'accord.
Et laisser faire, tout à fait. Mais ce rôle de manager, il est totalement différent et on a peut-être tous les talents qui vont bien pour être un expert technique et peut-être pas tout à fait ceux qui vont bien pour être manager.
C'est vraiment un métier à part entière.
C'est un métier, il faut oublier l'ancien quasiment, comme vous le disiez, pour laisser faire et laisser aussi innover. Mais ça veut dire qu'on va prendre des risques, ça veut dire qu'on n'est pas celui qui sait tout, et ça veut dire que son rôle, il est surtout d'animer, de donner envie, d'écouter, beaucoup beaucoup d'écoute. Ça suppose un peu d'humilité, ça suppose de se dire qu'il n'y a pas qu'une manière d'aller à Rome, hein. On peut prendre plusieurs chemins. Tout ça, ça s'apprend surtout, pas tellement dans les livres, hein, même si j'en écris, ça peut être une piste de réflexion, mais ça s'apprend surtout par l'expérience.
Hein. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu toute une époque où le manager devait être celui justement qui savait tout et par lequel tout descendait, et puis avec un certain autoritarisme aussi. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça aujourd'hui?
Vous faites 180 degrés, vous arrivez à peu près au point où il faut être.
Et ça veut dire que le management à la Google, un peu, enfin à la GAFA, d'une manière générale, elle est cool, allez, venez les gars, on va se taper un baby-foot et vous allez voir, ça va être vachement sympa. C'est la bonne solution aussi? Ou pas du tout? Il ne faut pas tomber dans les extrêmes.
Vous parlez de l'extrême qui, en fait, ne répond pas au problème fondamental.
D'accord.
Bon, ce n'est pas gênant, hein, d'avoir un foot, qu'on puisse faire une partie de foot, qu'on ait des locaux agréables, bien au contraire. Hein. Mais ce n'est peut-être pas ce qui est prioritaire.
D'accord.
Ce qui est prioritaire, je crois, si on se place du point de vue du collaborateur et même de toute personne qui travaille, hein, c'est que son travail a un sens, qu'on adhère à ce pourquoi on coopère, hein, et on met son énergie. C'est la première chose, hein, que ça ait un sens. La deuxième chose, c'est qu'on puisse agir sur ce qu'on fait. Si vous avez affaire à quelqu'un qui aime beaucoup innover, il va être très très mal avec des process. A contrario, si vous avez quelqu'un qui panique dès que les choses ne sont pas bien cadrées et bordées, il appréciera particulièrement d'avoir des règles de repère, d'avoir des process.
Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir manager exactement de la même manière une personne ou l'autre?
Pas du tout, et ça va être le rôle du manager que de détecter comment fonctionne le collaborateur qui est en face de lui pour s'y adapter. C'est pas lui qui a la bonne solution. La bonne solution, c'est son collaborateur qui l'a et à lui de la trouver.
Et avec des leviers qui ne vont pas être les mêmes non plus. Donc,
absolument.
Certains ont besoin de plus d'encouragement que d'autres, par exemple, plus d'autonomie pour d'autres.
Certains ont besoin qu'on leur dise voilà où on va et qu'on les laisse totalement libres sur la manière d'y aller. Et d'autres ont besoin qu'on leur dise tu fais ce premier pas, puis celui-là, puis tu reviendras me voir et on verra comment est-ce qu'on progresse ensemble. Ça veut dire j'ai le temps d'une... Oui, j'ai le temps d'une petite histoire, d'une chose.
Allons-y rapidement.
Oui, j'ai appris ça très jeune, mais ça a été une rude leçon. J'étais dans l'industrie pharmaceutique et j'avais convaincu une pharmacienne responsable du conditionnement de changer de poste une personne qui était au conditionnement des suppositoires. À l'époque, ça consistait à une bande d'aluminium qui passait devant vous, des suppositoires qui arrivaient par et vous poussiez un suppositoire dans chacune des alvéoles. Elle était parfaite, il ne manquait jamais un suppositoire. Et je trouvais vraiment que c'était du gâchis. Donc j'avais convaincu la pharmacienne de la mettre dans un atelier de conditionnement à surveiller une machine. J'étais très fière de moi. Sauf que, 8 jours après, la personne est venue en larmes dans le bureau de la pharmacienne en disant « remettez-moi au suppositoire ». Voilà. Alors j'ai quand même voulu comprendre, j'étais pas très fière, hein, parce que quand la pharmacienne est venue me voir. Et en fait, elle m'a expliqué, ben, c'était tout à fait compréhensible, et c'était erreur de management de ma part. Hein. On lui avait pas demandé ce qu'elle aimait. Et elle m'a expliqué, eh ben, quand je suis au suppositoire, ma tête, elle est à ce qu'on va faire avec mes petits-enfants, ce que je vais leur faire à manger, le film que j'ai regardé hier à la télé. Mais là, à la machine, je peux pas. Mmh. Donc en fait, elle était là pour gagner sa vie, bien évidemment. Plus elle pouvait s'échapper, donc elle était complètement en automatisme, et sa tête était ailleurs, elle vivait ailleurs. Mais et voilà qu'on lui disait, il faut être au travail. Ah, voilà. Tout le monde dit qu'il faut être impliqué. Non, elle voulait faire bien son travail, pas avoir d'ennui au travail. Tout se passait bien et qu'on lui fiche la paix.
Mmh. Et le boulot était fait.
Le boulot était fait.
Et bien fait.
Bon, ça a été une grande leçon pour moi.
J'imagine.
Arrêter de penser à la place de l'autre.
C'est ce qui est compliqué aussi pour un manager, d'apprendre en faisant des erreurs. On va voir comment on se fait sa place de manager, justement, dans un instant, et comment on favorise le bien-être au travail.
France Bleu Touraine, à Saint-Cyr-sur-Loire, 98.7.